BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour vos deux heures quotidiennes d'expertise. Deux heures pour gérer au mieux vos placements. Deux heures qui débutent, vous en avez l'habitude, par toute l'info éco. Et c'est avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco.
À la une, ces scènes de chaos ce matin devant la salle Pleyel à Paris où doit commencer d'une minute à l'autre l'Assemblée Générale du groupe Total Energy. Des dizaines de manifestants écologistes sont installés aux abords de la salle pour bloquer la réunion. Ils ont été délogés tout à l'heure par la police. Ces actions coup de poing se sont multipliées ces derniers mois. Elles ciblent d'autres groupes pétroliers dans le monde et pour Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, leur cœur de métier est de toute façon condamné. C'est ce qu'elle a déclaré tout à l'heure au micro de France Info.
Moi, je le dis très clairement, des entreprises qui sont aussi aujourd'hui positionnées sur le secteur du pétrole ou sur le secteur du gaz doivent se réinventer. Elles doivent sortir des énergies fossiles. C'est ce que nous dit le GIEC, c'est ce que nous dit toute la politique que nous menons pour lutter contre le dérèglement climatique. Et elles n'auront aucun avenir. Aucun avenir, et je l'ai dit à Patrick Pouyanné pour Total, si elles ne sont pas capables de tracer ces trajectoires de sortie des énergies fossiles et de décarbonation.
Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. L'autre grand titre ce matin, c'est Intermarché qui signe un accord avec Casino. Les mousquetaires vont racheter 180 magasins de l'enseigne qui pèsent près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Intermarché va également élargir le partenariat sur les achats avec Casino du côté de la dette. Casino a entamé comme prévu la procédure de conciliation sur 4 mois. Le groupe va tenter de négocier avec ses créanciers pour alléger ce fardeau de 6 milliards d'euros. Cette montée en puissance d'Intermarché rebat les cartes du secteur de la grande distribution où elle pourrait être évoquée lors de l'Assemblée générale de Carrefour qui a lieu ce matin également. Autre sujet à l'ordre du jour, la prolongation anticipée du mandat d'Alexandre Bompard à la tête du groupe. Il n'y aura pas de défaut de paiement, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden hier soir. Le président américain assure que les discussions sur le relèvement du plafond de la dette avec l'opposition républicaine avaient été productives. Mais on est maintenant à moins d'une semaine d'un possible shutdown des États-Unis. Toujours outre-Atlantique, Neuralink obtient le feu vert des autorités sanitaires pour tester ses implants cérébraux sur des humains. La start-up d'Elon Musk va lancer ses essais cliniques sur des personnes paralysées ou qui souffrent de maladies neurologiques. Mais l'homme d'affaires ambitionne d'aller plus loin. Il souhaite doper les capacités de l'homme à plus long terme grâce à ses puces. CMA CGM se renforce dans les médias. L'armateur dirigé par Rodolphe Saadé va racheter le journal La Tribune. Le groupe a déjà mis la main sur la Provence il y a quelques mois et est déjà présent dans le capital d'M6. Et on termine avec les jeux d'argent qui ont battu des records en France l'an dernier. Quasiment 13 milliards d'euros de mise. Elles ont bondi de 20% sur un an selon l'Autorité nationale des jeux. Le PMU et la Française des jeux reste majoritaire sur ce secteur. Mais les casinos ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires de 130% grâce à leur réouverture après la pandémie.
Merci beaucoup Faiza. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, c'est le moment où on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve donc Antoine Larigauderi, qui est installé au cœur de la salle de contrôle du CAC chez Euronext à la Défense. Bonjour Antoine. Que se dit-on pour terminer la semaine ?
Bonjour Cédric. Que le rebond tourne court, hein. On y croyait ce matin à l'ouverture, on avait une petite hausse de 0,4-0,5% pour l'indice parisien et puis voilà, on revient sur les niveaux d'équilibre. 0,01%, on était même en très très légère baisse là il y a quelques minutes, 7230 points, on n'en sort pas, on n'a pas l'énergie de rebondir, pas assez de catalyseurs, on attendait un rebond quand même significatif du secteur du luxe, hein, qui a une valeur structurelle maintenant au sein du CAC 40. Bon, pour l'instant, il a lieu, mais pas sur des niveaux suffisants pour nous entraîner à un petit peu plus haut. Il y a pas mal de titres qui pèsent. De toute manière, rien en termes de dynamique de hausse ne pourra renaître tant que le problème du déplafonnement de la dette américaine ne sera pas résolu. Parce que, franchement, c'est ça qui limite clairement les intentions d'achat des investisseurs. Malgré la belle hausse du Nasdaq hier et un marché américain qui était globalement positif, hein, entraîné à la hausse par Nvidia et ses perspectives prodigieuses du côté de l'intelligence artificielle, ça reste lettre morte ce matin. à la Bourse de Paris. En tout cas, ça n'entraîne pas de dynamique de hausse supplémentaire. L'Eurostock 50 est légèrement dans le vert, hein, plus 0,1%. Le DAX à Francfort est même dans le rouge, moins 0,05%. Alors, du côté des valeurs qui réagissent bien ce matin, notez qu'il y a un petit peu d'agitation autour de tout ce qui est lié à la métallurgie, aux matières premières minières, avec une forte hausse des cours du minerai de fer ce matin en Asie sur le marché chinois Dalian. Donc, du coup, on a ArcelorMittal qui gagne 2,8% à 24,56€. Parmi les autres hausses du jour, on a STMicroelectronics qui gagne 0,8% à 39,51€. Toujours l'influx positif des actualités autour d'Nvidia. On a aussi le reste de la tech, hein, Dassault Systèmes qui se porte bien, plus 0,6% à 40,07€. Le secteur du luxe, ça on en parlait, une hausse. Mais bon, plus 0,57% pour LVMH qui est à 828,10€. Hermès, en hausse de 0,55% à 1925,40€. C'est vrai que la semaine aura été vraiment très très négative pour l'ensemble du secteur. On est arrivé sur des points d'achat, mais peut-être pas suffisant pour entraîner une hausse supplémentaire. Du côté des valeurs à la baisse, Téléperformance, moins 1,56, 145,05€. On a Unibail Rodamco Westfield, moins 1,6 à 42,69€. Engie qui est en repli d'1,5% à 13,73€. Et puis le secteur bancaire qui n'est pas très bien orienté. Société Générale, moins 1% à 23,60 et BNP Paribas, moins 0,78 à 55,74 €. Du côté des valeurs hors CAC 40, Coface signe la plus forte hausse du SBF 120 à plus 7%, 12,98 €. En revanche, l'actualité foisonnante autour de Casino est arbitrée très négativement. Le titre recule de 5,8% à 6,37 €. Le CAC 40, donc, moins 0,02%, vraiment des points d'équilibre, 7,227 points. L'euro en dollars, 0,741, notez les volumes d'échange particulièrement faibles encore. On tourne autour des 300 millions d'euros d'actions négociées après une heure de cotation.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigauderie, chaque matin pour cette première heure de cotation depuis le siège d'Euronext à La Défense. Nous tout de suite, on continue à vous accompagner dans le monde action.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et on rejoint Thierry Gauthier chez GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Bonjour Cédric.
Vous nous proposez ce matin un focus sur Imerys.
Exactement, Imerys qui n'est pas très connu hein, du grand public, mais qui est un de nos leaders mondiaux français des spécialités minérales et des matériaux avancés pour l'industrie. Alors son métier c'est quoi? C'est d'offrir des solutions à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs hein, qui vont de l'industrie de la construction, de l'industrie de l'automobile, jusqu'aux biens de consommation et de santé. Mais vous le savez peut-être pas, mais vous retrouvez Cédric dans votre dentifrice, vos cosmétiques ou vos emballages, des minéraux d'Imerys. Les minéraux sont bien souvent produits et extraits par Imerys elle-même, hein, qui dispose de ses propres ressources, et ils apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et les améliorent sur bien des sujets, comme la dureté, la conductivité, l'opacité, la durabilité, la pureté, la légèreté, et j'en passe, la filtration. Et toutes ces propriétés, bah, évidemment, sont au service du développement durable, ce qui constitue d'ailleurs un peu notre premier argument d'achat sur le titre. Alors à cet argument-là, qui découle du métier lui-même, hein, de la société, il faut ajouter que les produits d'Imerys ne représentent qu'un faible coût dans le produit final de ses clients, et sont pourtant toujours primordiaux. Donc ça, évidemment, ça confère à Imerys un très fort pricing power, qui est un élément souvent essentiel à la qualité d'un titre. Et c'est un élément dont dispose Imerys. Et pour illustrer cela, on a eu les résultats du premier trimestre hein, qui ont été publiés début mai et qui le démontrent, puisque l'effet volume et l'effet coût étaient très négatifs sur le résultat opérationnel de la société. Mais tout ça a été compensé par un effet prix de plus de 100 millions d'euros qui a permis au groupe de présenter un EBITDA tout à fait en ligne avec les attentes et autour de 150 millions d'euros au premier trimestre. Donc le pricing power est là, c'est une qualité essentielle. Et puis, dernier argument, et non des moindres, c'est que le groupe Imerys est parfaitement positionné pour devenir un acteur majeur dans l'industrie européenne du lithium, hein, cet élément clé de la transition énergétique qui sert notamment pour la production des batteries des voitures électriques. Et sur ce sujet du lithium, le groupe dispose de plusieurs actifs miniers qui sont de véritables mines d'or pour le groupe et dont le potentiel ne nous semble pas du tout valorisé au cours actuel d'Imerys qui doit tourner autour de 32-33€. Et en effet, autour de 32-33€, le titre Imerys traite sur des ratios moyens historiques de 8 fois l'EBITDA. Ça veut dire que les actifs miniers que certains analystes évaluent entre au moins 15 et 30€ par titre ne sont pas du tout pris en compte à ce stade par les marchés. Donc voilà, c'est trois arguments forts qui nous font être très positif et très acheteur sur le titre Imerys.
Avec un objectif de cours ?
L'objectif de cours, on a au moins 50 euros en tête, ouais. pour Imerys. Dans un premier temps, on espère que les résultats des forages, justement, sur les mines qui sont censées sortir du lithium, et ces résultats devraient être annoncés courant de cet été, devraient permettre ce premier pas. Et on pourrait peut-être même à plus long terme voir encore un peu plus haut une fois que tout sera bien matérialisé.
Merci beaucoup Thierry Gauthier, GSD Gestion, qui nous accompagnait pour éclairer ce matin Imerys. Le marché parisien, lui, est très hésitant ce matin. Plus 0,05, 7232 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Patrice Gautry qui, comme chaque vendredi, nous accompagne en duplex avec nous depuis l'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous pour évoquer encore une fois les États-Unis. Il faut dire que l'actualité ne manque pas entre tout ce qui touche au plafond de la dette. On peut rajouter des questions d'inflation et la réserve fédérale. Ça fait de gros sujets. On regarde quoi en premier, ce fameux plafond de la dette, gros week-end, il faut négocier, il faut arriver à quelque chose. Il ne reste plus que quelques dizaines de milliards dans les caisses.
Oui, il ne reste plus que quelques dizaines de milliards effectivement dans les caisses, 50 là selon les dernières estimations, donc ce qui est effectivement un niveau plutôt bas, et aussi quelques dizaines de milliards encore de négociations entre 50 et 70 qui posent problème entre les républicains et démocrates. Alors les négociations donc progressent, visiblement sans être trop optimiste, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à un accord pendant le week-end, parce qu'effectivement les délais d'approbation aux deux chambres sont assez longs, et pour éviter effectivement, je dirais, une situation problématique au 1er juin, eh bien c'est la seule solution effectivement qui reste à voir. Alors les progrès ou les indiscrétions qui sont sortis de ces négociations effectivement montrent qu'il y a des points donc de rapprochement. On s'orienterait vers, je dirais, une orientation en fait de mettre un plafond sur le rythme des dépenses publiques et de pouvoir reporter à un an voire à deux ans en fait le plafond de la dette, de l'augmenter, mais de plafonner aussi les dépenses. Le problème, semble-t-il, c'est bien entendu d'arbitrer entre dépenses en faveur de l'armement ou dépenses en faveur des énergies fossiles par rapport à des dépenses en faveur des énergies alternatives ou en faveur des dépenses sociales. Et c'est là, effectivement, ce qui oppose encore les républicains et les démocrates. Mais, effectivement, on le voit bien qu'il y a du stress dans les marchés financiers. Alors, pas tant dans les marchés d'actions que beaucoup sur les marchés de taux d'intérêt. Et puis, les agences de notation, commencent à avoir une petite musique avec des sonnettes qui sonnent en disant « Attention, si vous n'arrivez pas à trouver un accord, on va mettre la pression sur une dégradation de la note », donc sans même parler, bien entendu, d'un défaut. Donc oui, il y a un intérêt majeur pour toutes les parties présentes à trouver un accord, et visiblement, on est capable, ou il serait capable, de trouver un accord pendant le week-end. Donc, à voir lundi. Alors, lundi, les marchés sont fermés en Angleterre et aux États-Unis. Mais on peut peut-être, justement, mettre à profit cette opportunité pour qu'il y ait un accord politique et, comme ça, pas trop de réactions ou de volatilité sur les marchés.
Donc, ça concerne le plafond de la dette. Mais il n'y a pas que ça, je le disais. L'agenda américain est quand même bien chargé. On a de l'inflation. Et puis, nécessairement, quand on parle d'inflation, on ouvre les documents estampillés Fed et on regarde où est-ce qu'on en est. Alors, comment on lit tout ça ?
Alors, l'inflation est toujours un sujet sensible. On l'a vu avec les minutes qui ont été publiées donc cette semaine lors de la dernière réunion donc de la Fed au mois de mai, où effectivement, eh bien, il y avait quand même un nombre important de gouverneurs qui n'étaient pas satisfaits du rythme de désinflation. Et c'est pour ça que les chiffres qui vont être publiés donc cet après-midi. Alors là, on est sur l'indicateur PCE, donc qui est avec une pondération un petit peu différente de l'indicateur CPI, et l'indicateur PCE, bon, il a ralenti en termes global. De 5, on est passé, en fin d'année, on est passé à 4,3. Mais par contre, ce qui inquiète, c'est que l'inflation cœur, donc elle, ralentit très très peu. On était à 5% il n'y a pas encore très très longtemps. on revient vers les 4,5-4,6%. Et là, effectivement, c'est un rythme de désinflation qui embête les faucons au sein de la Fed, d'où effectivement, je dirais, le risque, si on n'a pas une bonne donnée, c'est-à-dire une donnée qui est en ligne avec ce 4,6 ou des hausses mensuelles aux alentours de 0,3%, si on n'a pas effectivement des données rassurantes en ligne avec ce consensus, le risque, c'est d'avoir des hausses de taux qui perturbent un peu la copie et qui revoient effectivement l'annonce qui peut-être a été un petit peu trop rapide de la part de M. Powell, l'annonce de la pause possible de la Fed au mois de juin, eh bien cette pause serait remise en cause, sachant qu'on va bientôt rentrer dans la période effectivement où les gouverneurs ne sont plus autorisés à s'exprimer dans la préparation de la prochaine réunion. Donc on voit bien que ce chiffre-là, comme après les chiffres de l'emploi, eux sont des données sensibles qui déterminent s'il faut faire encore ou pas 25 points de base.
Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry, donc l'Union bancaire privée qui nous accompagne chaque vendredi. Bonne fin de semaine Patrice et on se retrouve très vite sur l'antenne. Le marché parisien, lui, est en toute petite hausse de 0,05%, 7232 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Thierry Vignal. Bonjour Thierry.
Bonjour Cédric.
Pour Mastéos, et on va parler de rénovation énergétique des biens en copropriété, en essayant d'apporter bien évidemment des solutions. D'abord, on replace un peu le contexte dans lequel il faut réfléchir aujourd'hui.
Oui. On parle beaucoup de rénovation énergétique, on oublie que c'est beaucoup plus facile pour une maison que pour un copropriétaire.
Ouais, quand on décide tout seul, quand...
Exactement, et ces gens-là en copropriété, c'est 30% des logements en France. Hein. C'est 10 millions de logements, essentiellement dans les villes densément peuplées comme Paris. Et en l'occurrence à Paris, on ne peut pas ou quasiment jamais avoir une autorisation pour poser un bloc externe de pompe à chaleur, ni faire d'isolation par extérieur. Puisqu'on a des façades haussmanniennes la plupart du temps, intouchables. Et donc, on est privé des deux gestes qui génèrent le plus d'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui nous reste ? Pas grand-chose quand on est copropriétaire. Et d'ailleurs, le bruit court qu'en fait, on pourrait jamais sortir du statut quoi qu'on fasse, parce que tout dépend de ces deux gestes que j'ai évoqués, l'isolation par extérieur et la pompe à chaleur. Il reste quand même...
Non, alors en fait, ce qu'il faut savoir quand même, pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est que Thierry a décidé de faire son filou. Et donc... Thierry va dire des choses pour vous finalement inciter à ne pas faire les travaux qui s'imposent.
C'est pas tout à fait vrai, on le verra tout à l'heure, mais on se dispute un scoop avec Marie. En l'occurrence, d'abord parlons des gestes alternatifs à la pompe à chaleur et à l'ITE. On a l'ITI, donc c'est l'isolation non pas par l'extérieur mais par l'intérieur. On va prendre le mur qui est exposé vers l'extérieur et on va rajouter une épaisseur d'isolant thermique la moins épaisse possible pour un Parisien.
Pour ne pas perdre trop de mètres carrés.
Bah oui, à 10 000 euros du mètre, ça serait dommage. Le problème, c'est que pour peu qu'on veuille aller chercher des aides type prime rénov, il faut minimum 16 cm qui correspondent à un coefficient de résistance thermique de 3,7.
Alors ça, pour le coup, je ne savais pas que c'était une question d'épaisseur.
Et oui, parfois, je vous apprends des choses.
C'est pour ça qu'on le fait venir régulièrement.
C'est pas écrit noir sur blanc. En fait, on parle de résistance thermique. Le coefficient à atteindre pour avoir la prime rénov, c'est 3,7. Ça correspond grosso modo, pour les laines minérales souvent utilisées, à environ 16 cm. Évidemment, ça ne passe pas dans un appart à Paris, surtout un studio. Les Parisiens, typiquement, vont trouver plus rentable d'aller chercher moins d'épaisseur, quitte à pas toucher les aides. Hein. En général, on va mettre du 8 cm à Paris, c'est récompensé par le DPE, même si on touche pas d'aide. Voilà. Mais c'est quand même trois fois moins efficace qu'une isolation par l'extérieur. Et d'ailleurs, ma prime rénov le subventionne trois fois moins.
Bah ouais.
Parce que non seulement les gestes techniques dépendants du copropriétaire sont peu nombreux, et en plus, ils sont très mal subventionnés parce que peu efficaces. Donc c'est vraiment la double peine. Système de chauffage, on peut jouer un peu si on est au gaz individuel sur la chaudière très haute performance énergétique à condensation. Pourquoi pas? Sur l'électrique, il n'y a pas grand chose à faire à part mettre des convecteurs à basse température et encore, c'est pas tout le temps récompensé. Les fenêtres, double vitrage, triple vitrage, mais ça n'a pas un impact gigantesque non plus sur le DPE. Et puis la ventilation, de toute manière, ce qui compte en VMC, c'est les bouches d'aération double flux, et ça, on n'a pas beaucoup d'impact en tant que copropriétaire, à part la bouche hygro, pourquoi pas. Mais bon, ce cumul de gestes, mis bout à bout, si on fait tout ce que j'ai énoncé, donc l'ITI, la VMC, l'embout, les fenêtres, quoi d'autre ?
La chaudière
quand on peut. On peut aller maximum gagner, d'après la plupart des diagnostiqueurs, 2 lettres. Quand on est en G, c'est un peu frustrant d'être à ça du dé. Et pour la modique somme de 1000 euros du mètre carré.
Ouais, ouais.
Ce qui pose un autre problème. D'ailleurs, dans les villes à moins de 2000 euros du mètre carré, quand on est à 1000 euros du mètre carré en frais de rénovation énergétique, on dépasse très rapidement 50% du prix du foncier. Ces villes-là, c'est un quart des 300 plus grandes villes de France. Donc, c'est pas rien.
Bon.
Que faire ?
Ah oui, c'est ça, parce qu'on a
et
quand même
voilà
dit.
Et voilà venir Thierry le filou.
On a quand même dit qu'on était là pour apporter des solutions et pas juste pour plomber l'ambiance.
Et enfin, voilà la solution, écoutez.
Alors déjà, je suis pas là pour vous dire de pas faire les travaux. Je suis le premier à proposer une offre de rénovation énergétique. Mais il ne faut pas perdre espoir pour autant ou dire ça sert à rien tout ça pour gagner de l'être. Parce que la loi, roulement de tambour, la loi climat et résilience, prévoit des exceptions dont peu de gens parlent. En l'occurrence, la loi en prévoit trois. Alors, je vais les citer dans le texte parce que les gens n'y croient pas.
Il s'est amusé tout le week-end, en fait.
Ah oui, j'étais assez impressionné par le c'est noir sur blanc. Si l'urbanisme nous dit pas de bloc externe pompe à chaleur, on a une exception. C'est écrit, c'est l'article 160 de la loi climat et résilience.
Ce qui apparaît normal.
Tout à fait normal. Mais pourquoi une panique des copropriétaires dans ce cas ? La loi dit clairement si le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimale, eh bien, on est exempté. Deuxième exception, c'est la copro. L'article 160 de la loi, le point 4, alinéa 2, dit explicitement que si le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire concerné peut démontrer que malgré ses diligences pour des résolutions tendant à la réalisation des travaux relevant des parties communes, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance énergétique minimale.
Et on en avait parlé avec Stéphane Descartiers, alors attention à ceux qui nous écoutent, qui sont en copro, faites attention à bien proposer quand même à la prochaine AG de faire les travaux, comme ça vous avez un document à l'appui. Regardez, j'ai proposé.
Et puis tant pis pour vous si on vote
et
oui.
Et on a...
Il faut pouvoir démontrer au juge qu'on a proposé la résolution à l'AG et c'est qu'on a voté pour. Parce que si c'est on a voté contre, c'est un peu dissonant. Et pareil, on a fait la déclaration préalable de travaux en mairie pour un bloc externe, ça a été refusé. Je suis exempté, donc je peux louer mon bien en F pour peu que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, c'est-à-dire la liste des prestations que j'ai évoquées. Et là, troisième exception, pas des moindres pour ceux qui vivent dans des villes à moins de 2000 euros du mètre carré, si le coût de la rénovation énergétique, et là je cite dans le texte, excède 50% de la valeur vénale du bien évaluée par un professionnel dans le domaine de l'immobilier, je suis exempté.
Autrement dit, votre bien il vaut 200 000, vos travaux vous en avez pour 110 000, c'est bon, vous n'êtes pas obligé.
La loi ne dit pas si on parle des 10 000 qui dépassent ou de tout le budget. Ouais. J'imagine qu'on parle de ce qui dépasse. Mais en tout cas, pour tous ceux qui disent je vis, je sais pas, à Saint-Quentin, c'est 1 000 euros du mètre carré dans les Hauts-de-France.
Oui, pas en Yvelines.
Non. Voilà. On a quand même. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est très positif. C'est faites les travaux, ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à arriver en D, puisque la loi prévoit des exemptions explicites.
Mais on comprend bien que toutes ces exceptions, effectivement, on les a peut-être pas assez publicitées, même si on avait parlé du cas de la copro. N'empêche qu'on comprend les propriétaires qui se disent sur un site d'annonce de loc. Moi, je vais rester avec mon F ou mon G. Je pourrais toujours, certes, le louer parce que j'aurai le cachet, mais candidats locataires,
les candidats locataires dans les villes tendues, ils préfèrent avoir un logement, en fait.
Ouais.
Le problème, c'est que ça va jouer.
Oui.
La tension du marché locatif se fait quand même en faveur du propriétaire bailleur aujourd'hui. Je suis navrée, mais en fait, le problème de ces... Alors, le problème, c'est pas de trouver des façons d'échapper à la loi, c'est de permettre à ce que la loi s'applique et de faciliter les choses pour le propriétaire bailleur pour qu'il puisse faire les travaux, puisque à la fin, ça reste un locataire qui va continuer à vivre dans une passoire thermique, parce que la réalité, elle est là. Donc à un moment donné, je trouve que moi, ça m'amuse beaucoup les exemptions. Et en plus de ça, le problème, c'est que c'est souvent les propriétaires bailleurs les plus de bonne foi, j'ai envie de dire, qui vont essayer de tout faire pour faire les travaux. Et puis, les filous, il y en a aussi, hein, parce qu'on va pas se voiler la face, et eux ils vont savoir comment échapper à la règle. Donc la réalité, c'est quand même tout ça risque de se faire pour le coup au détriment du locataire en bout de chaîne. Moi, c'est ça que je trouve dommage.
Il y a les locataires et puis juste les propriétaires qui mettent en vente des biens. Aujourd'hui, il y en a, j'ai compté juste avant d'arriver, il y en a 5000 En vente là, en ligne sur le site principal qu'on connaît tous, qui sont en passoire thermique.
Ouais.
C'est bien là en vente, ne trouve pas d'acheteur. Pas du tout. Alors quelques marchands de biens font des offres à moins 30-40%. J'ai eu écho de ça, mais voilà. Sinon, ça part pas. Et pourquoi les gens font pas les travaux? Parce qu'ils sont paralysés par l'idée que quoi qu'ils fassent,
ça ne marchera pas.
Et en fait, si on fait les travaux qui dépendent de nous, on a un bien qui est dans la loi.
Non, et ça, c'est important de le dire, effectivement. On
parce
est d'accord
que, justement, Thierry, au lieu de paralyser les gens, ça va les forcer à faire le peu qui dépend d'eux.
On est d'accord.
Et d'aller au bout de ça. Et c'est vrai que, de toute manière, en fait, comment la loi s'applique techniquement, il faut que le locataire, en 2034, aille traîner son propriétaire-bailleur devant un juge. Et à ce moment-là, le propriétaire va pouvoir démontrer que il a fait les démarches auprès de la copro, auprès de l'urbaniste.
Exactement.
Et donc, il a le droit de louer.
Exactement.
Un peu.
Mais c'est toujours le sujet. C'est qu'en fait, c'est un peu comme l'encadrement des loyers. On part sur de bonnes intentions, sur de bonnes initiatives. Mais la problématique derrière, ça va être de savoir quel est le rapport de force. Et dans les villes très tendues comme Paris, est-ce que vous connaissez beaucoup de locataires, malheureusement, qui vont pas aller contester le niveau de leur loyer, qui vont pas aller contester. Enfin, c'est le problème. On est déjà très content d'avoir réussi à trouver un logement quand on est locataire à Paris. Donc, ça va être vraiment le sujet, je trouve. Et pour faciliter la rénovation énergétique aujourd'hui, bon, c'est les aides qu'il faut booster.
Donc, faut pas flipper.
Ouais.
Faut lire la loi et après.
Il faut faire les travaux.
On essaye de faire au mieux.
Qui sont en notre pouvoir. Voilà.
Allez, on quitte un petit peu ce sujet parce que Thierry, qui est un fidèle de l'émission, nous a accompagnés sur la spéciale impôt sur le revenu.
Ouais, j'étais pas là et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes.
C'est pour ça, d'accord, on va dire ça comme ça. Et les problèmes d'hier à 11h10, c'était aussi à cause de vous,
Marie ? C'est ça, exactement. J'ai appuyé sur le mauvais bouton en régie.
Et voilà, on a surfé sur tant d'articles, sur tant et tant d'alinéas, de
CERFA.
Voilà, de CERFA, etc., que forcément, il y a eu une petite erreur qui
a été signalée. Ma langue a
ripé. Voilà, sur un mot.
De deux lettres.
De deux lettres, dans les deux
mais
cas.
Mais en fiscalité, chaque mot compte.
Exactement. Et c'est François qui était à l'écoute, lui, et qui n'a pas manqué tout ça. Et donc, c'était sur la différence entre LMNP et LMP, donc loueur meublé, professionnel ou non professionnel, et la petite différence c'était et ou où, c'est
et
ça?
Et ou, parce qu'on a deux conditions, on a la règle des 23 000 euros de revenus en meublé, et l'autre condition c'est est-ce que ça représente la majorité de nos revenus. Donc il ne faut pas se tromper sur le et ou le ou. En l'occurrence, si on veut rester dans le LMNP, qui est un peu plus intéressant, les recettes locatives tirées de la location meublée ne doivent pas dépasser 23 000 euros. Elles doivent être inférieures à 23 000 euros, ou elles doivent être inférieur aux autres revenus. Donc ne pas consister en la majorité des revenus.
Donc c'est où ?
C'est où si on veut y rester, c'est et si on veut en sortir. En tout cas, il y a deux règles. On peut générer, par exemple, 30 000 euros de revenus de location meublée.
Si
ça ne représente pas la majorité de nos revenus globaux. Voilà.
Moi, j'ai tout compris. Alors Dieu sait que moi, ce genre de sujet, perd vite. Mais là, j'ai tout compris. Grâce à Thierry.
Oui, grâce à Thierry et à la vigilance de François, qui avait été à l'écoute. Voilà. N'hésitez pas, quand on fait une bourde, on la répare. Merci Thierry.
Merci.
Mastéos, qui nous accompagne donc très régulièrement, et on en est ravis. Merci Marie, à lundi.
À lundi.
Pour la vie IMO, dans un instant, ce sont nos traders qui seront à la manip. Et n'oubliez pas non plus la une des éco-patrimoines. Vous n'avez pas pu manquer toutes les questions qui se posent autour du crédit immobilier dans cette période de remontée de taux. Eh bien, les éco-patrimoines, en partenariat avec BFM Business, se sont penchés là-dessus. Et vous retrouvez tout ça, bien évidemment, dans vos kiosques dès aujourd'hui.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders à votre service chaque jour à 10h30 sur l'antenne de BFM Business. C'est notre promesse. Et ce matin, Jean-Louis Cussac et Stéphane Sauduteil sont en duplex, respectivement, depuis Perceval et Technibourse. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Stéphane, il ne se passe pas grand-chose. Il y a peu de volume et le marché hésite.
Oui, c'est vrai. Les semaines se suivent et se ressemblent pas. La semaine dernière, quasiment à la même heure, on était à plus de 7500 points. Et puis, est passée par là une vague de correction très importante sur les valeurs du luxe, qui sont une pondération très importante dans l'indice parisien. Et donc, on se retrouve quasiment 300 points plus bas à cette heure-là. Je vous le disais depuis plusieurs semaines que ma gestion du pire restait les 7200 points. On les a touchés dans la semaine. Alors, il faudrait que ce niveau tienne quand même, parce que si on passait en dessous, on remettrait de la défiance, je pense, sur les investisseurs. Et peut-être que finalement, cette correction sur les valeurs du luxe ne serait que... reprendrait peut-être de plus belle. Donc, il va falloir surveiller quand même ce niveau, parce qu'en dessous des 7200 points, on n'a guère que 7000 et voire 6800 150 points en support dessous, donc c'est un niveau qui me semblait très très important. On a bien rebondi dessus ce matin, on semblait redécoller, on est quasiment touché les 7280 points avant d'avoir une petite faiblesse sur les futurs américains qui nous ont ramené vers les 7220 points, et là on est en train de remonter un petit peu. Donc j'ai l'impression que les bornes un petit peu de la journée sont en place, on va dire 7220 en bas et 7280 en haut, même s'il y a les commandes de biens durables cet après-midi aux États-Unis, même s'il y a l'indice des prix à la consommation des ménages qui pourrait encore agiter un petit peu les marchés, mais voilà, je pense que peut-être le point haut et le point bas de cette séance ont été faits pendant cette première heure et demie de cotation. Voilà, on voit aussi l'euro-dollar continuer sa vague de baisse avec la reprise des taux d'intérêt américains à 2 ans et la reprise du dollar américain. Il y a un gros niveau de support à 1,0680. Pour moi, il faudrait passer dessous pour vraiment entamer cette belle tendance haussière qui est celle de l'euro-dollar depuis des semaines et des semaines. Donc, on a encore un petit peu de marge. Voilà, alors aujourd'hui, peut-être que effectivement, on va être peut-être un peu plus en roue libre après une semaine qui a été quand même assez riche en émotions.
Jean-Louis, comment voyez-vous les choses chez Perceval ?
Eh bien, comme hier. Je pense que les marchés se sont mis en mode veille attentive, pas d'initiative, attente donc avec méfiance quand même, hein, évidemment, mais pas de forte inquiétude. Ce matin, on a ouvert assez fort vers... 7200, on a fait 45 sur le contrat futur juin. On saluait à ce moment-là les avancées dans les discussions, puisqu'on nous a expliqué que vraiment on était proche d'un accord cette fois-ci. Puis à la fin, de l'explication, on nous dit « Ah oui, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Hein. » De toute façon, c'est toujours la même chose. On va avoir un suspense qui va durer un certain temps. Pour autant, les marchés sont quand même... Alors, construit, comme je l'ai expliqué hier, d'une manière toujours assez solide, on a évité la complaisance, on a eu des débuts de « je ne sais pas quoi faire, je vais acheter du futur », mais oui, il n'y avait pas encore de vente de put, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc le marché, il est construit toujours d'une manière à éviter l'effet domino. Donc ça, c'est très important. On l'a encore constaté au pire moment de cette baisse. Donc, on est dans la neutralisation, d'ailleurs, sur les indices et sur l'euro-dollar. Moi, ce matin, on a proposé un achat à 7196, une vente à 7257. Là, vraiment, je vous donne les points de 8 heures. Et après, bon, ben, comme on s'arrêtait à 45 pendant 5-6 minutes, on a vendu un petit peu. Mais le problème, c'est qu'on commence à vendre. Mais on n'arrive pas à vendre le maximum qu'on se fixe, hein, puisqu'on étale. Et par contre, l'achat, lui, il a été fait, mais on rebondit pas beaucoup. Ça reste assez mou. Alors, on peut se calper, on peut faire ce qu'on veut. Moi, pour ma part, après, moi, je me place un peu plus haut, vers 23, 33, 43. L'idée, si vous voulez, c'est d'être opportuniste, c'est d'essayer de pêcher un peu en eau trouble, parce que rien, vraiment, ne se dégage de ce marché. Alors, est-ce qu'on a fixé les points hauts et points bas de la journée ? Je sais pas, mais le PCE, tout à l'heure, c'est un indicateur très important, le taux d'inflation. La Fed le suit de très près pour prendre ses décisions. Donc 14h30 risque d'être un moment quand même un peu volatile. Après, c'est vrai qu'on se dirige quand même vers des banquiers centraux qui deviennent plus restrictifs, plus durs. Donc on pourrait même avoir des hausses de taux aux États-Unis. Alors, vous savez, les avis sont divergents. Et puis il y a une alternance sur tout ce que les économistes peuvent penser, mais c'est normal. Il y a une confusion. Il y a des enjeux qui vont de droite à gauche. C'est compliqué cette situation. Et les investisseurs du coup sont peu enclin à prendre des grandes initiatives. Alors moi, j'ai un petit peu plus tendance à vendre qu'à acheter dans cette phase de repli. Et quand j'achète, bon, j'en fais un peu, bien sûr, comme tout à l'heure, mais je vais aussi acheter des calls, des options. Je pense que passer par les options, avec une vol implicite qui reste modérée dans la période, hein, on est quand même dans la zone un peu basse, c'est quand même quelque chose qui me paraît intéressant pour éviter le stress d'aller sur le futur. C'est quand même une bonne solution.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Stéphane Sauduteil depuis Technibourse. Stéphane qu'on retrouvera à 11h30 tout à l'heure pour suivre cette séance. Le marché parisien pour le moment grignote 0,11%, 7236 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis seront-ils considérés comme en défaut de paiement le 1er juin à minuit? C'est pas la première fois qu'on vit cette fameuse date couperet du plafond de la dette américaine. Mais cette fois, on a l'impression que les craintes sont peut-être plus fortes. Pourquoi?
Parce que c'est à cause de Mme Yellen. Elle a fixé la date du 1er juin. Et elle a dit qu'au-delà de cette date, s'il n'y a pas d'accord au Congrès pour relever le plafond de la dette, l'Amérique ne rembourse pas les titres américains qui arrivent à échéance en juin. L'Amérique ne rembourse pas. Alors, c'est pas à proprement parler un défaut, parce qu'un défaut, c'est quand un pays ne peut pas payer. Là, il s'agirait d'un pays qui ne veut pas payer. Alors, on a déjà connu, c'est vrai, des absences d'accord sur le plafond de la dette.
On se souvient des fermetures de parcs nationaux.
Oui, bien sûr, absolument. Souvenez-vous, 2011, bras de fer Obama, les Républicains. Effectivement, 800 000 fonctionnaires fédéraux sont en chômage technique non payés. L'armée est maintenue, mais les soldes ne sont plus versés. Les services publics sont fermés. Et puis, tu vas plus à Yellowstone, à la Statue de la Liberté. Voilà. Ça, on l'a vécu. On a vécu 21 jours de blocage en 95. C'était un bras de fer entre Clinton et les Républicains à l'époque.
Le psychodrame de ce plafond de la dette, c'est quasiment un classique de la vie politique américaine. À chaque fois, on a joué à se faire peur, non?
C'est assez vrai, oui. Il y a eu 78 relèvements de plafond de la dette depuis 1960. On a presque toujours joué à se faire peur. Il y a eu un moment très chaud quand même. On est au mois d'août 2011. Standard & Poor's retire le AAA des États-Unis au motif qu'il n'y a pas de contrôle des déficits et l'absence d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette au Congrès. Et là, en fait, à cette date-là, la Fed, sans le dire en secret, prépare un plan d'action d'urgence, pensant que là, effectivement, on risque de basculer les États-Unis en défaut de paiement. Et en fait, tout simplement, après avoir fait un audit des conséquences réalisées par le service économique de la Fed de New York, la Fed se tient prête à reprendre immédiatement l'ensemble des titres de dette américaine que les investisseurs voudraient céder, de manière à éviter l'armageddon que pourrait provoquer un vrai défaut des États-Unis.
Bah oui, parce que c'est pas anodin. Qu'est-ce qui se passe si l'oncle Sam fait défaut?
L'oncle Sam fait défaut, c'est écoutez les enfants, je vous ai réunis pour vous dire que papa est parti hier soir. Il est parti avec la caisse, il est parti avec la carte vitale et il a décidé d'arrêter de payer les traites de la maison. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Clairement, un défaut de la dette des États-Unis, c'est un choc immédiatement planétaire. Wall Street s'effondre. Standard & Poor's a fait une simulation. Allez, en quelques jours, on perd 10 000 milliards de dollars de capitalisation. Vous avez l'indice VIX qui part au plafond, évidemment. Vous avez le taux à 10 ans américain qui s'envole et potentiellement qui s'envole définitivement. C'est quand on a fait défaut une fois, on peut le refaire. Donc désormais, ça se paiera. Vous avez l'or qui s'en va vers des sommets. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs vécu en 2011. Là, l'once d'or, c'était beaucoup en 2011, a frôlé les 2000 dollars au moment où il y a eu ce psychodrame avec S&P et la Fed qui préparait son plan d'urgence. Vous avez un risque de credit crunch. C'est quand même le pire du pire, on se souvient de 2008. Vous avez une récession après, vous avez du chômage. Standard & Poor's dit on peut avoir jusqu'à 1 200 000 emplois aux États-Unis qui seraient perdus. Et donc très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Réserve fédérale ramène ses taux à zéro et elle se porte acquéreur de l'ensemble des titres de dette qui sont émises par le Trésor des États-Unis. Bon, après, c'est un peu singulier quand on parle de l'Amérique, parce que c'est le dollar. T'as du dollar, Cédric. Tu fais quoi? Tu vas le mettre dans l'or? Bah, l'or, il n'y a pas de rendement. C'est juste du refuge. Dans la livre sterling, le yen, l'euro, qui sont des marchés qui n'ont absolument pas la liquidité et la profondeur du dollar, c'est compliqué, parce que c'est incroyable, le dollar. C'est 40% des transactions mondiales sont facturées en dollars, alors que l'Amérique ne pèse que 10% du commerce mondial. C'est-à-dire que c'est une monnaie, c'est le privilège exorbitant est absolument confirmé et aujourd'hui inattaquable. Alors après, tout peut être solué sur le terrain juridique. Parce que Janet Yellen, elle a brandi le 14e amendement de la Constitution. Et en l'occurrence, l'article 4 de cet amendement. Et dans l'article 4, on lit ça date du 19e siècle. La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, ne doit pas être remise en question. Dans ces cas-là. Mais moi, je suis assez fasciné par cette histoire de plafond de dette aux États-Unis. Je trouve que ça a un côté hyper pédagogique. J'aimerais bien qu'on ait un plafond de la dette en France ouais. Et que s'il n'y a pas d'accord au Parlement, on ait un government shutdown. Et tout d'un coup, les hôpitaux publics sont fermés à 6 heures du matin. Il n'y a plus de CMU, plus de RSA. On ne va pas à l'Arc du Triomphe, on ne va plus au Louvre. Les casernes de pompiers sont inactives. Pôle emploi est fermé. Il y a des millions de fonctionnaires qui ne sont plus payés. Les écoles publiques sont fermées. Voilà. Ça permettrait peut-être de prendre conscience de l'importance du sérieux budgétaire et de l'hypertrophie de l'État.
Plus efficace qu'une règle d'or.
Voilà. L'hypertrophie de l'État dans le dysfonctionnement du pays.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le CAC, qu'on vous dit très hésitant, vient de repasser sous son niveau de clôture d'hier soir, -0,02%.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
7228 points donc pour cet indice CAC 40 qui joue au yo-yo autour de son niveau de clôture d'hier soir. Ce, après, pour autant, un début plutôt favorable. C'était dans la première demi-heure de cotation, mais cette volonté s'est assez rapidement effritée. C'est pas le cas ailleurs en Europe où l'Eurostock 50 fait la course en tête, plus 0,23. Alors, il n'y a pas de quoi faire non plus des bons, mais on est dans le vert du côté de l'Eurostock 50. On a réussi finalement à rattraper la glissade qui avait également affecter cet indice au bout d'une demi-heure de cotation. Du côté des principaux arbitrages à la hausse du ST Micro, du Dassault et du LVMH, et puis Unibail, Téléperf et Orange ferment la marche. Le Rodol est à 1,0732.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille François Monnier et Romain Burnand. Bonjour messieurs.
Bonjour.
François pour la rédaction d'Investir, Romain pour Moneta Asset Management. Merci d'être là. Et on évoque avec vous ce matin le cas des petites capitalisations. Nouvelle année de surperformance. On va essayer de savoir si ça peut et quand s'inverser. Parce que c'est vrai que quand on regarde le CAC and Small, le CAC Mid, etc., on voit que les pourcentages de progression sont plus que faibles. Surtout si on les compare à ceux des large caps, du CAC 40 qui gagne 12%. On est sur 1 ou 4% pour les deux autres indices. C'est encore à la peine. Comment on explique tout ça, Romain ?
Alors, il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode dont les marchés sont un peu cloisonnés. Donc, les petites valeurs, c'est pour une clientèle un peu spéciale, de fonds de petites valeurs notamment, ou de particuliers qui investissent en bourse. Certaines fois, ils préfèrent les petites valeurs, d'autres fois, ils préfèrent des plus grandes valeurs. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une forte période de 2015 à 2017 de très fortes collectes sur des fonds de petites valeurs. C'était un secteur qui, à l'époque, avait un engouement. Les valorisations sont un peu plus élevées et ça s'est renversé en 2018 où du coup on a une très forte décollecte des fonds de petite valeur.
Donc aujourd'hui, il y a un côté mode,
un côté flux, donc la collecte et puis maintenant la décollecte qui continue de manière très régulière depuis 2018. Donc tout l'excès de collecte est transformé en négatif. Et puis vous avez un effet éventuellement news flow, incertitude sectorielle et compagnie, ou incertitude économique en général. Les investisseurs aiment bien les large caps aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils pourront en sortir facilement. Et sont pas vraiment dans un esprit. Une question de liquidité. Ils ne sont pas vraiment aujourd'hui dans l'idée de se projeter sur le moyen long terme. Et peut-être c'est une des raisons qui explique le fait que quand on investit dans une valeur moins liquide, on est moins sûr de pouvoir en sortir facilement dès qu'on aurait envie d'en sortir. Oui.
Pourtant, il y a des leaders mondiaux, François, dans ces petites et moyennes capis. Ce qu'on dit petites et moyennes capis, on se dit oui, c'est des boîtes qui démarrent, c'est des petites boîtes, tout ça. Non, il y a quand même aussi des grands noms. Il n'y a pas que le CAC, comme on dirait, non ?
Il n'y a pas que le CAC 40. Et c'est vrai que quand il y a une introduction en bourse, à chaque fois, on dit que c'est un champion mondial. Donc, dans son domaine. Et donc, le domaine, parfois, il a un peu réduit.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas que... Il faut voir quand même qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des cinq dernières années. D'abord, il y a l'émergence des ETF. Les ETF, c'est la gestion passive qui a tendance à acheter uniquement les grandes capitalisations de façon mécanique. J'ai envie de dire bêtement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus vous êtes gros, plus vous êtes recherché par des ETF et plus vous risquez de devenir gros. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les grandes entreprises communiquent mieux sur ce qu'elles font pour la protection de la planète, sur la thématique ISR, la thématique ESG. Et donc, ça draine aussi la gestion dite ESG Et donc, c'est plus facile de se dire, j'ai un rapport complet sur ce qui a été fait en 2022, en 2021, dans ce domaine-là. Et donc, ça séduit un type de clientèle. Donc, vous avez déjà deux flux qui viennent vers ces acteurs. Vous avez un troisième phénomène, c'est que finalement, il y a quand même un peu moins de recherche d'analystes, parce que rentabiliser un analyste financier sur un titre peu liquide, parfois c'est pas forcément rentable, alors que ça le devrait, parce que quand le titre est moins suivi, vous avez plus de chances de découvrir une pépite que quand tous les regards sont portés sur une valeur. Mais il n'empêche que c'est un phénomène qu'on observe.
Et le coût de la recherche, il est immense pour les maisons, hein.
Bien sûr. Et donc on a vu que la régulation faisait que c'était devenu un peu plus compliqué. Et puis il nous manque quand même quelques belles histoires, si on prend ne serait-ce que l'exemple franco-français. On a eu à un moment donné quand même un raz-de-marée de valeurs de biotech dans le domaine de la santé, où c'est vrai qu'on a une vraie expertise. Et finalement, il n'y en a pas ressorti grand-chose.
Les essais n'ont pas été transformés.
On attend toujours la sortie d'un produit ou d'un service, pas forcément miracle, mais un service qui passe la phase 3, c'est-à-dire qui sera commercialisé et puis qui sera diffusé par l'intermédiaire de grands laboratoires aux quatre coins du monde. Et donc, il nous manque quand même ce qu'on appelle des equity stories, des belles histoires. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on peut noter quand même un certain désintérêt pour cette classe d'actifs.
Alors, juste Romain, parce que vous nous avez parlé de décollecte, de flux, etc. Mais enfin, s'il y en a qui décollectent, c'est-à-dire qu'il y en a qui vendent. S'il y en a qui vendent, a priori, pour pouvoir vendre, il faut aussi qu'en face, il y en ait un qui achète. Qui est-ce qui achète, du coup?
Et c'est ça qui est intéressant, Cédric, parce que ce que nous a dit François, c'était beaucoup de questions de marketing, de flux qui se déversent, EDF, de news flow, de souscriptions OSG qui... Les petites valeurs ne sont pas des voyous par rapport aux grandes, hein. Bien sûr, il y a tout. Donc, qui achète, c'est ça qui est très intéressant. Qui achète, c'est les sociétés elles-mêmes qui font des rachats d'actions. Ouais. Aujourd'hui, on a le rachat qui se termine de Bolloré, qui rachète 9% de son capital sur un flottant de 30%, donc quasiment un tiers du flottant. On a eu des rachats de la part de Mille Merci, de Line Data, on a eu Manutan, on a eu Lizzie. Tous des belles valeurs dans leur secteur, hein, Lizzie, un équipementier du secteur automobile et aussi aéronautique.
Dans les microfixations, etc.
Donc les sociétés rachètent, souvent c'est des sociétés familiales, ça permet aussi à leurs dirigeants de se diluer. Parfois c'est l'actionnaire majoritaire qui lui-même se renforce directement en lançant une OPA. C'était le cas récemment de Rothschild, de la famille Rothschild qui a sorti son véhicule coté de la bourse. C'était le cas de Somfy, qui est une très belle valeur, qui était cotée depuis très longtemps, une valeur de croissance. Pour le coup, c'est une belle valeur industrielle, qui est un leader mondial, et qui la famille a décidé de sortir parce que le cours était devenu vraisemblablement intéressant pour le faire. Et puis aussi, vous avez des gros actionnaires comme Villemorin, qui a été racheté par son actionnaire de contrôle. Et puis alors après, vous avez aussi des opérations industrielles. Par exemple, Sopra a racheté plusieurs valeurs, et notamment Ordina, une société cotée de taille moyenne, 500 millions d'euros de capitalisation boursière aux Pays-Bas. Donc vous avez les acheteurs qui sont là, sont des acheteurs qui connaissent bien les sociétés, qui connaissent sur leur ressort. C'est plutôt un bon signe pour les investisseurs qui sont encore sur les petites et moyennes valeurs.
C'est ça, c'est se dire que c'est pas complètement pourri, mais d'un autre côté, ça appauvrit la cote aussi.
Ah bien sûr, ça c'est...
C'est sympa de voir les autres qui se rachètent les uns les autres.
Après, c'est la vie, il y a des introductions en bourse, il y a des départs. Après, il faut voir si ces départs, c'est un peu des aveux d'échec. Quelque part, c'est
pas des boîtes, mais du fait d'être coté.
Est-ce que ça veut dire que là il y avait une sous-valorisation? Est-ce qu'il y a une sous-valorisation? C'est ce que dit Romain. C'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'il faut quand même regarder les dossiers, puisque qui dit pendre la cote délaissée dit potentiellement des actifs sous-valorisés qui mériteraient un meilleur cours de bourse. Donc s'il y a aussi des bonnes affaires à détecter au sein de cette cote, et on attend toujours bien sûr que le réveil.
Alors justement, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance? Qu'est-ce qui pourrait ramener les mid and small, je dirais pas à leur juste valeur, mais un peu sur le devant de la scène peut-être?
Alors à leur juste valeur, elles le sont régulièrement par les OPA que je vous cite. Il faudrait qu'il y ait une vraie confiance sur le moyen long terme. Hein, aujourd'hui, on a un marché qui est inquiet. On a ça se voit par les valeurs très, très défensives qui sont beaucoup plus chères que les valeurs plus cycliques. Les gens n'arrivent pas à se projeter. En général, on constate dans les phases de reprise de la croissance économique, les petites valeurs sont sur le devant de la scène, car les fonds s'investissent de manière plus durable. Bon, en attendant, C'est comme le dit François, le secteur des petites valeurs, un secteur qui est moins bien recherché, moins bien analysé. Donc ceux qui sont des professionnels peuvent, ou les investisseurs particuliers qui ont un goût pour la recherche, ont plus de chances de faire de bonnes affaires dans ce domaine-là que dans les très grandes valeurs.
Donc c'est une affaire de spécialistes, quoi. Les maisons qui ont le goût de cette chose-là.
De spécialistes et d'environnement. Parce que c'est vrai quand même, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours des dernières années, entre le Covid, la guerre en Ukraine, la pénurie de composants, etc., on a quand même vécu une série d'éléments dits exceptionnels qui se sont enchaînés, qui fait que ça devient un peu récurrent, mais à un moment donné, ça devrait se calmer. Et là, on a une différence de parcours boursier qui devient extrêmement important. Hein. Sur 5 ans, le CAC 40, ça a gagné plus de 30%, quand le CAC Small perd 10%. Donc, vous avez 40 points d'écart, c'est considérable. Alors que ces entreprises-là ont quand même bien travaillé. Ce sont des sociétés qui sont quand même plutôt bien gérées, mais voilà, à un moment donné, ça va se corriger. La question, c'est quand ? Est-ce qu'il faut s'armer de patience ? Est-ce que il y en a encore pour quelques années, ou quelques mois, ou quelques semaines ? C'est ça la véritable question.
Et vous sauriez dire, vous, quelques semaines, quelques mois, quelques années ?
Ben moi, je sais quand il y a des valeurs qui sont décotées, un jour, elles sont normalement cotées. Ah. Et quand elles passent de décotées à normalement cotées, parfois, elles arrivent à rester aussi surcotées. C'est ce qu'on a connu en 2016-2017 pendant que les petites valeurs étaient très à la mode. Il y avait beaucoup de flux qui se dirigeaient vers elles. On s'était fortement allégé dans nos fonds. On a des fonds qui sont plutôt multicap, donc plusieurs types de capitalisation, des petites, des moyennes, des grandes, parce que certaines petites valeurs de secteur, par exemple des services informatiques, cotaient beaucoup plus cher que des grandes valeurs de services informatiques mondialement et bien diversifiées et bien implantées. Donc, il faut jamais chercher un catalyseur précis, parce que c'est pas forcément le catalyseur qu'on attend qui se produit. Nous, on a tendance à dire, quand il y a un secteur ou un ensemble de valeurs qui peuvent être intéressantes, qui sont coûtées, il faut y être investi et le vent tournera.
Bon, vous dites multicap, en fait, vous êtes aussi à la tête d'une des références de ce monde des petites et moyennes capis avec votre fonds dédié. Hein, donc, c'est pas que multicap chez Moneta.
Non, puis c'est vrai, si on prend ne serait-ce que. C'est pas, le CAC 40 n'est pas non plus un gage de succès. Hein. Quand vous regardez le parcours de Capgemini et celui de Sopra Steria, Capgemini est loin de son plus haut historique, alors que Sopra Steria y est. Donc, c'est pas parce qu'on a le label CAC 40 que c'est un gage de succès, loin de là.
Bon, pour autant, oui, ça reste aussi l'ère des grandes valeurs. Alors, on va pas parler que du CAC, mais dire quand on regarde la tech américaine, par exemple Nvidia.
Ah ben oui, on a.
C'est aussi l'heure de ces.
On observe ce qu'on observerait il y a quelques années ou de nombreuses années au sein des valeurs moyennes, c'est que vous pouvez avoir des géants qui ont des variations de cours de près de 25% en une seule séance parce que il y a un changement de perception sur les perspectives. Et c'est ce qu'on a vu par exemple hier dans le secteur des semi-conducteurs lorsque Nvidia qui fabrique des cartes graphiques au départ uniquement pour les jeux vidéo, et c'était des systèmes avec des microprocesseurs qui permettent d'analyser énormément de données, parce que les jeux vidéo ça consomme énormément de données. Eh bien ces cartes servent aussi pour les crypto-monnaies et maintenant servent pour l'intelligence artificielle. Et ce qui s'est passé hier, c'est que Nvidia a dit, voilà, moi au cours du trimestre précédent j'ai une demande de 14%, et là je vois que la demande elle va doubler au cours du trimestre en cours, et résultat, vos prévisions, vous analystes, eh bien elles sont très très en dessous de ce que je vais réaliser, je vais faire 50% de mieux. Et là, tout de suite, on a eu un raz-de-marée, et on voit que ça bouge beaucoup du côté de l'intelligence artificielle. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, ça suscite
beaucoup d'engouement.
C'est peut-être un peu du marketing, comme dirait Romain, mais on voit des mouvements qui sont assez massifs. Et Nvidia,
dans les deux sens d'ailleurs.
Dans les deux sens. Donc c'est un peu on adore et on déteste. Il y a rarement de juste milieu, et encore moins dans la tech. Hein. La tech, il faut le rappeler, c'est un peu un grand cimetière d'éléphants. Il y a beaucoup de stars déchues, et on voit que les stars d'une année sont pas forcément les stars de l'année suivante ou de la décennie suivante, mais là on voit que l'intelligence artificielle, ça fait rêver les investisseurs, et c'est pas que du rêve, parce qu'il y a du chiffre d'affaires, il y a des profits, on le voit dans le domaine des semi-conducteurs, et là on a une ruée en tout cas aujourd'hui de l'argent à destination de cette thématique-là. Nvidia, il y a eu à peu près 60 milliards de dollars échangés en une seule journée. C'est considérable.
C'est des chiffres qui font tourner la tête.
On a rarement vu Et on voit que, en tout cas, le sujet de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, suscite beaucoup de recherches.
Vous regardez aussi ces géants chez Moneta ?
Alors, regarde-moi les géants. On voit beaucoup d'innovations aussi dans les petites valeurs. Par exemple, le fait que les premières sociétés qui s'occupaient d'éoliennes étaient des petites sociétés cotées nous a permis d'avoir une expertise dans le secteur. On a beaucoup de sociétés aussi qui ont été tournées vers l'environnement, mais il y a longtemps. On avait donc c'est le segment des petites valeurs est un bon moyen aussi.
Permet de s'initier sans mauvais acceptions du terme.
S'initier à des secteurs qui parfois se développent de manière très impressionnante, parfois ne se développent pas, parfois c'est des mauvaises technologies. François a cité le secteur des biotech où effectivement on a eu beaucoup de déceptions en France, on a eu moins de déceptions dans d'autres pays du monde. Je pense aussi la focalisation, vous voyez, 70 milliards de dollars échangés sur une seule valeur qui publie, c'est quand même pour moi le signe d'un marché un peu malsain aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup d'argent encore. Les gens sont nerveux, n'ont pas une vision de très long terme, parce que la vision de long terme est peut-être difficile à avoir, ou du moins le long terme paraît présent à très court terme. Il y a beaucoup de modes qui apparaissent, qui disparaissent. Je ne parle pas que l'intelligence artificielle, c'est plus un mouvement de fond, mais on avait il n'y a pas longtemps le métaverse. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, et pourtant on avait tous les rapports d'analyse sur le métaverse et le luxe, 30% du chiffre d'affaires à horizon 2030, et tout ça c'est oublié. Donc on est quand même dans un marché un peu mouvant, un peu dangereux. Les petites valeurs ont leur charme de ce côté-là, elles sont plus tranquilles, elles sont beaucoup moins bien valorisées et elles permettent de dormir de manière plus sereine pour une épargne de long terme.
Bon, quitte à décevoir Romain, ça veut dire qu'il faut quand même se ruer sur ces valeurs de la tech qui font 70 milliards.
Disons qu'on peut pas ignorer quand même le phénomène. Il y aura probablement peut-être une bulle à un moment donné sur l'intelligence artificielle. On voit aussi quand même que le marché il travaille quand même sereinement, même s'il y a quand même des grands coups de cœur, des gros coups de cœur, puisque par exemple hier quand Nvidia s'envole, on a vu que Intel lui buvait la tasse, donc Intel, la star des années 90, début des années 2000, maintenant voilà, ils sont pas du tout sur le créneau de l'intelligence artificielle, donc les gens achètent des semi-conducteurs, mais pas n'importe lesquels. Donc, résultat, vous avez Intel qui baisse, ça fait baisser le Dow Jones, et vous avez Nvidia qui fait monter le Nasdaq. Donc on voit que dans le domaine des semi-conducteurs, il y a du tri. STMicroelectronics, hélas, en France, n'a pas du tout profité de cet engouement pour les semi-conducteurs. On a l'indice semi-conducteur qui a gagné près de 7% hier, alors que ST a vu rouge parce qu'ils ne sont pas positionnés sur l'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment un marché qui fait quand même son travail. Peut-être que parfois il va trop vite, parce que
il amplifie parfois le.
Il amplifie. Donc après il va corriger. Donc c'est pas si on peut donner un conseil, c'est lorsque le titre gagne, Nvidia gagne 25% à une séance, c'est peut-être pas ce moment-là qu'il faut mettre tout son argent sur Nvidia. Peut-être que il va falloir à un moment donné.
C'est aussi pour ça qu'on vous rappelle qu'il faut investir régulièrement.
Absolument.
Et non pas tout mettre sur le rouge. Merci à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure.
Avec plaisir.
Vous répondrez aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr. Donc Romain Burnand pour Moneta et la rédaction d'Investir et François Monnier. Dans un instant, toute l'actu, un détour par les marchés et regard croisé à suivre.